avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Eh ben oui, on est à Abidjan. Bonjour Abidjan. Ça va les voisins? Nous enregistrons cette émission en fait à la Banque africaine de développement en partenariat avec la Voix des Jeunes et le HCR, le Haut Commissaire aux Réfugiés, à l'occasion d'une compétition de projets citoyens entre des étudiants du Sénégal, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, une des compétitions porte sur un défi immense sur le continent. Quelle solution pour les enfants sans identité et les apatrides en Afrique de l'Ouest? Nous sommes ici exactement 2 ans après la conférence d'Abidjan où plusieurs pays ont pris des engagements pour mettre fin à ce que l'on appelle l'apatridie. Mais quelle est la réalité dans les familles? La Côte d'Ivoire est le pays qui abrite le plus grand nombre de personnes sans document d'identité. Mais il faut bien le dire aussi, les pays voisins ne se bousculent pas pour fournir des statistiques officielles sur un sujet aussi tabou qui empêche des hommes, des femmes de mener tout simplement une vie normale. Nous allons en parler avec nos invités. Emmanuel Mitte, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé régional du programme Apatridie au HCR, le Haut Commissariat aux Réfugiés. On parle de plusieurs millions de personnes privées d'identité et de nationalité en Afrique ou pas? Qu'est-ce qu'on sait exactement des chiffres à l'échelle du continent africain, Emmanuel?
Alors, malheureusement, impossible de donner des chiffres précis parce que les États ne se sont pas encore donné les moyens d'aller chercher les statistiques. Donc le HCR, à ce jour, estime qu'il y a au moins 1 million de personnes apatrides en Afrique de l'Ouest seulement.
Mohamed Touré également à vos côtés. Bonjour Mohamed Touré.
Bonjour.
Vous êtes le représentant du HCR en Côte d'Ivoire. On parle d'au moins 700 000 personnes sans document d'identité.
En effet, la Côte d'Ivoire bat les records sur ces questions liées à l'apatridie, mais c'est en grande partie dû au fait que c'est certainement le seul État qui a des statistiques plus ou moins fiables. Le reste des États de l'Afrique de l'Ouest ont des statistiques qui ne sont pas des plus pointues, alors que la Côte d'Ivoire a pris à bras le corps cette question et a des statistiques qui sont beaucoup plus pointues.
On dit aussi qu'un enfant sur 3 ne serait pas déclaré à la naissance en Côte d'Ivoire. On parle d'un enfant sur 4 au Sénégal. C'est un problème en fait qui concerne tout le continent. Également avec nous, Tilkouété Sansonda, député ivoirien RDR. Bonjour, monsieur le député.
Bonjour.
Vous êtes au parti présidentiel de Bouna. C'est dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, hein, pour nos auditeurs qui ne sont pas ivoiriens. Et puis on entendra bien sûr la voix des jeunes sur le sujet comme Djenabouba, guinéenne. Bonjour Djenabou.
Bonjour Emmanuel.
Vous avez participé à la compétition en tant qu'étudiante guinéenne et vous nous direz également aussi d'autres jeunes dans le public si votre génération se sent davantage concernée par le sujet des enfants sans identité de l'apatridie en Afrique.
7 milliards de voisins, nous avons maintenant une lucarne. Voisins, voisines, on est ensemble et puis on va se parler, on va se dire la vérité.
Je voudrais tout de suite qu'on donne la parole un témoignage, qu'on entende un témoignage. C'est Guy, vous êtes venu dans le public aujourd'hui. Bonjour Guy.
Bonjour à tous les voisins et à toutes les voisines.
C'est la première fois que vous venez dans l'amphithéâtre de la Banque africaine du développement?
Oui, bien sûr.
Oui. J'aimerais que vous nous parliez, parce que c'est pour ça que vous êtes venu, c'est pas simple pour vous. J'aimerais que vous nous parliez de votre nièce, cette petite fille de 6 ans, sans identité.
Oui, c'est bien ça. Elle est née en 2011 et en 2011... Pendant la crise post-électorale, on était tous déportés au village. Elle est née dans un hameau avec la Macron. Et depuis ce temps-là, elle n'a pas été déclarée. Donc maintenant, 6 ans se sont écoulés. On est aujourd'hui en 2017. Et on voit maintenant qu'il est temps maintenant de la scolariser.
Parce qu'entre-temps, elle est venue à Abidjan. Hein, c'est ça?
Oui, bien sûr.
Elle est née dans le Grand Ouest.
Hein, oui, elle est née dans le Grand Ouest. Depuis l'endroit où elle est née jusqu'à Abidjan, il y a au moins 500 km de distance. Et
vous ne parvenez pas en fait à retrouver une preuve, une trace de sa naissance au village. Comment s'appelle votre petite nièce?
Elle s'appelle Inès.
Inès, elle a un prénom.
Oui.
Elle existe bien.
Oui, elle existe bien. C'est un prénom donné par les parents comme ça, mais sur les papiers, ça n'existe pas parce qu'elle n'a pas de papier.
Elle n'a pas de papier, donc elle n'a pas été déclarée à la naissance parce qu'il y avait un certain chaos, c'était la crise, vous l'avez expliqué. Aujourd'hui, quelle est la situation d'Inès, 6 ans, qui vit dans la banlieue d'Abidjan?
Elle est en âge d'aller à l'école, mais les écoles ne voulaient pas l'accepter parce qu'elle n'a pas de pièces. Ou bien une école va l'accepter pendant un moment et dans le premier trimestre, ils vont interpeller les parents pour les pièces et comme elle n'est pas déclarée, l'école va se désengager. Parce qu'au moment des examens de l'entrée en sixième, l'enfant n'aura pas de pièces, elle ne pourra pas passer. Donc, en me levant ce matin, je pense que beaucoup de jeunes peuvent aussi faire comme moi et puis porter notre voix haute et puis amener les autorités de l'état civil à faire quelque chose pour les enfants qui sont dans ce genre de situation.
Merci Guy d'être venu témoigner. Je sais que ce n'est pas évident.
Merci Emmanuel.
Je crois qu'on peut vous applaudir.
Merci.
C'est quand même rudement compliqué cette histoire de déclaration à la naissance, de non-documentation, pas de document d'identité, apatridie, Mohamed Touré du HCR en Côte d'Ivoire. Comment est-il possible qu'aujourd'hui, en 2017, une petite fille de 6 ans, avec un prénom, une existence aux portes d'une grande ville comme Abidjan, soit privée d'éducation déjà ?
C'est triste à dire, mais ce n'est pas un phénomène isolé. Je pense que malheureusement, en Côte d'Ivoire, il y a une défaillance évidente du système d'enregistrement des naissances. Et surtout dans des situations où les personnes sont dans des zones reculées. Le cas que vous venez de citer ou le témoignage que nous venons d'avoir se situe dans une zone complètement reculée, très loin des centres de santé, très loin des centres administratifs où des déclarations de naissance peuvent être faites. Et c'est une écrasante majorité des enfants qui sont nés, particulièrement pendant les situations difficiles de 2010-2011, se sont retrouvés dans des situations de non-documentation, avec toutes les conséquences que cela peut avoir sur la personne.
Mais en principe, légalement, cette petite fille devrait avoir le droit d'aller au moins à l'école jusqu'à l'examen à l'entrée en sixième, ou pas ? Dans certains pays, ces enfants-là, même sans identité, sont acceptés au moins jusqu'à l'entrée en sixième.
Effectivement, je veux dire que théoriquement, l'inscription se fait avec une pièce d'identité, mais si elle n'existe pas, je dirais qu'il y a des exemptions qui peuvent être données pour que l'enfant puisse être inscrit. Mais je veux dire qu'on ne fait que retarder le problème, parce que tout simplement, arriver à un certain niveau, pour passer l'examen d'entrée en sixième, la documentation de cet enfant pourrait être demandée. Et c'est ce qui, malheureusement, entraîne des situations où les gens font recours à la fraude. Donc, ils font recours à la fraude pour pouvoir s'assurer une certaine existence juridique. Et malheureusement, ils vivent avec une fausse identité.
Donc, on achète des faux papiers, tout simplement.
On achète des faux papiers, on fait appel à des complicités au niveau de certaines administrations pour pouvoir s'assurer, en tout cas, s'assurer son existence juridique à travers des faux documents.
Donc, finalement, le fait que ce soit compliqué de revenir en arrière quand il n'y a pas eu une déclaration à la naissance, ça entraîne des fraudes, ça entraîne de la corruption. Normalement, si tout se passe bien, l'enfant est déclaré à la naissance, ça coûte très peu cher. À l'état civil.
Hein?
Les parents payent, mais c'est très peu.
C'est symbolique, c'est très peu cher. Mais malheureusement, quand cet acte n'a pas été fait à la naissance, on fait recours à un jugement supplétif. Le jugement supplétif peut être onéreux pour des personnes qui sont souvent démunies. Et elle est encore beaucoup plus compliquée quand les témoignages ou les témoins qui peuvent justifier de la naissance ne sont plus là. Donc si ces personnes ne sont plus là, elles ne peuvent pas être là.
Et s'ils peuvent témoigner, encore faut-il qu'ils soient eux-mêmes documentés pour dire j'ai bien vu naître cet enfant.
Bien entendu. Alors, c'est un cercle vicieux.
Donc si tout se passe bien, l'enfant a un extrait de naissance, hein, il est déclaré à la naissance. Ensuite, en principe, si tout se passe bien, dans un monde idéal, il va accéder à un certificat de nationalité ?
Dans un monde idéal, tout dépend de la situation juridique sur laquelle il est né. C'est-à-dire qu'effectivement, si le droit à la nationalité s'acquiert par la naissance sur le sol, le jus solis, effectivement, la naissance confère nationalité. Mais si tel n'est pas le cas, si la nationalité ne peut être conférée que par la filiation, donc il faudrait encore faut-il que le seul fait d'avoir un acte de naissance ne nous donne pas l'acquisition d'une nationalité, parce qu'il faut prouver un attachement à une filiation.
Au moins un des deux parents doit être ivoirien pour la Côte d'Ivoire. Mais d'autres pays sont moins exigeants sur ce plan-là, par exemple.
Ou peuvent être exiger les deux, exiger et la naissance et la filiation.
Et ensuite, dans un monde idéal, on accède à une carte d'identité, voire à un passeport si on veut voyager.
Dans un monde idéal.
Ça, c'est quand tout se passe bien. Ça n'est pas le cas, de toute évidence, aujourd'hui en Afrique. Emmanuel Mitte, est-ce que... Là, on a bien entendu le témoignage de Guy. Cette petite fille de 6 ans a grandi avec des parents qui n'ont pas fait l'objet de migration, de transhumance, de mouvement de population. Toute la famille était basée dans le Grand Ouest depuis très longtemps. Est-ce qu'aujourd'hui, les cas d'apatridie, les cas d'enfants non documentés s'apparentent systématiquement à des problèmes de mouvement de population le plus souvent ou aussi ce qu'on appelle l'apatridie in situ, quoi. Depuis plusieurs générations, on n'a pas bougé de la région et on se retrouve dans la même situation.
En Afrique, c'est essentiellement des situations d'apatride in situ, c'est-à-dire que les gens sont apatrides dans leur propre pays. Ils n'en connaissent pas d'autres. Et parfois, depuis plusieurs générations, voire depuis toujours, les familles sont installées dans ce pays-là. Mais il n'y a pas de document pour établir leur rattachement à ce pays. Et notamment un extrait de naissance qui va à la fois démontrer le lieu de naissance, donc on est bien né dans ce pays, puis la filiation avec un père, une mère, qui pourraient éventuellement être éligibles eux-mêmes à la nationalité du dit pays.
Ça veut dire que la patridie n'est pas forcément liée aux guerres, comme on pourrait l'imaginer.
Du tout. Les guerres, ce sont des circonstances qui vont peut-être entraîner le fait que certaines personnes vont perdre leur nationalité. Donc ce sont juste des circonstances, mais la plupart des personnes, une fois encore, et j'insiste, en Afrique, ne sont pas des réfugiés ou des migrants, les personnes apatrides. Plus souvent, ce sont des personnes qui sont chez elles, qui n'ont jamais bougé.
7 milliards de voisins, c'est sur RFI.
7 milliards de voisins sur RFI. L'enregistrement de l'émission se fait à Abidjan, à la Banque africaine de développement, avec la compétition citoyenne Voix des jeunes, qui propose des solutions à des problèmes sociaux. Et Dieu sait que l'absence de documents d'identité pour des millions d'enfants est un sacré problème. Je crois qu'on l'a compris depuis le début de l'émission. Je voudrais donner la parole à un élu local. Vous avez 37 ans, vous êtes un jeune député RDR de Bouna, la circonscription du nord-est de la Côte d'Ivoire. Mmh. D'ailleurs, vous venez d'être élu en 2011.
Hein. Absolument.
Vous êtes aussi président national de la jeunesse du RDR, donc vous êtes très investi sur les questions de jeunesse. Je voudrais que vous nous disiez, en tant qu'élu, comment vous êtes confronté à ce problème d'absence d'identité dans votre région ?
D'accord. Merci, madame. Vous faites bien de dire absence d'identité, parce que j'allais revenir sur la question pour dire que la définition de l'apatridie telle qu'appliquée à la situation de la Côte d'Ivoire ne me convient pas.
Ah.
Non. Parce que est-ce qu'il suffit de manquer de pièce d'identité pour qu'on dise qu'on est apatride, quand on sait que l'apatridie renvoie à la nationalité? Bon, ça me pose un peu problème. C'est en cela que je dis la situation de la Côte d'Ivoire est pratiquement différente. Et je m'empresse de poser la question au frère Guy, qui a sa nièce qui a l'âge de 6 ans, qui ne l'est pas encore déclarée à l'état civil. C'est une situation qui est bien connue en Côte d'Ivoire, mais je dois relever que juste après la crise, lorsque le président Alassane Ouattara a installé toutes les administrations, l'un des premiers actes à poser, c'était de prendre une ordonnance pour annuler la période de déclaration de naissance, qui est de 45 jours, 3 mois en Côte d'Ivoire. C'était 45 jours, maintenant c'est 3 mois en Côte d'Ivoire. Le président de la République a décidé de passer outre ce délai pour permettre à tous ceux qui n'ont pas de pièce d'identité d'aller le faire gratuitement. Cette mesure a été prise.
En rallongeant les périodes. Alors, dans d'autres pays, au Sénégal, par exemple, ça peut être 60 jours. Hein. Passer 60 jours, ben, vous avez manqué le coche.
Avant, en Côte d'Ivoire, c'était 45 jours. Maintenant, c'est 3 mois pour permettre aux nouveau-nés de pouvoir bénéficier de leur pièce. Donc, je voudrais lui poser la question. Pourquoi il n'a pas pu suivre cette instruction, l'exécution de cette ordonnance ?
Guy, je sais qu'aussi, il y a eu des audiences foraines que vous avez manquées, enfin, que le papa de votre nièce a manqué aussi dans la région.
Il y a eu des audiences foraines, mais pour le cas de ma nièce, elle était en déplacement dans le Grand Nord, là-bas, avec sa maman qui est elle-même sans papier et le père qui est je ne sais où, qui n'était pas ensemble, donc il n'était pas à même d'aller représenter sa fille là où elle était, donc jusqu'à maintenant.
Til Kouété.
C'est une négligence de la part des populations elles-mêmes, parce que l'État a donné jusqu'à 24 mois à ces personnes-là pour pouvoir se faire délivrer le document précieux d'acte de naissance gratuitement. 24 mois. Et condamner une fillette aujourd'hui à ne pas avoir d'extrait de naissance alors qu'elle n'y est pour rien, mais ça, il faut que les parents, eux aussi, prennent beaucoup conscience de cette situation qui détruit l'avenir des enfants.
Donc, vous êtes en train de dire là aux familles que si leurs enfants ne sont pas déclarés, s'ils n'ont pas de papier, s'ils se retrouvent ensuite en situation d'apatridie, c'est qu'ils l'ont cherché.
En partie, c'est vrai qu'il y a des défaillances parfois qu'on peut constater. L'éloignement des centres d'établissement des pièces d'état civil, par exemple, des situations difficiles. Mais en partie, Il faut que la population fasse beaucoup d'efforts.
Sous-entendu, les aménagements législatifs aujourd'hui font qu'on n'a plus d'excuses. C'est ce que vous nous dites.
Oui, absolument. Pour les enfants nés pendant la crise, c'est difficile de concevoir que deux ans après, on n'a pas pu se rendre dans les centres de santé, les centres d'état civil pour pouvoir se faire délivrer le document. C'est inadmissible.
Mohamed Touré.
C'est peut-être inutile de focaliser sur un cas précis. Peut-être qu'il y a des raisons qui sont propres à cette famille. Donc je pense que mieux vaut ne peut-être pas personnaliser en tant que tel le débat ou le cristalliser sur cette famille-là. Ce qu'il faut dire en fait, et pour répondre à l'élu de Bouna, c'est qu'effectivement l'importance de que constitue un acte de naissance n'est souvent pas connue des familles. Je veux dire que des familles qui sont dans le monde rural, qui sont dans un monde plus ou moins fermé, où effectivement l'importance de l'acte de naissance n'est peut-être pas connue de tous. Donc je pense que c'est plus ce défaut d'information et ce défaut d'acquisition même ou la possession de cette information. Je veux dire que vous vous rendez compte que quand la personne est dans un monde complètement éloigné des centres urbains, elle n'a pas nécessairement accès à ça. Mais là effectivement, il s'agit d'une loi exceptionnelle qui a permis effectivement de permettre à tout un ensemble d'enfants qui étaient nés pendant cette période où l'administration était totalement défaillante. Mais je pense que beaucoup de personnes n'ont pas eu accès à cette information.
Alors, ceci dit, on est dans un pays spécifique, on l'a dit depuis le début de l'émission, d'abord parce que c'est un pays où il y a énormément d'enfants sans identité, mais surtout aussi, Mohamed Touré, parler d'identité en Côte d'Ivoire, 20 ans après les batailles sur l'ivoirité du milieu des années 90-2000, c'est encore un sujet extrêmement politique.
Absolument, c'est éminemment politique. Mais tout le conflit ivoirien tourne autour de cette notion de la nationalité, qui est ivoirien, qui n'est pas ivoirien. Donc je pense que cela a fait courir beaucoup d'eau sous les ponts, beaucoup d'encre ont été versées là-dessus. Mais je pense qu'il est important de dire c'est que l'apatridie en Côte d'Ivoire ne doit en aucun cas être instrumentalisée, par les uns ou par les autres. Je veux dire qu'instrumentalisée dans le sens où il ne faudrait pas utiliser la situation d'apatridie pour en faire un cheval de bataille, faire un cheval politique. Il est évident que pour nous autres, HCR, qui sommes une organisation de défense des droits de l'homme, l'apatridie demeure pour nous quelque chose d'essentiel, dans le sens où c'est un droit fondamental des droits de l'homme.
Pour aller à l'école, pour avoir accès à la santé, pour se marier légalement.
Absolument.
Et évidemment aussi pour voter, il faut bien le dire quand même.
Hein. Bien sûr, pour voter.
Je pense se présenter à des élections.
Il est évident que certains utilisent ce mot pour dire qu'effectivement, mettre fin à une situation d'apatridie est une façon... autrement de faire accéder à une carte d'électeur et cette carte d'électeur peut être amener la personne à voter dans un sens ou dans un autre. Mais je pense que je donne souvent comme exemple le cas des Noirs esclaves pendant la guerre de sécession. Donc l'idée c'était aux États-Unis. L'idée c'était de dire non, il ne faudrait surtout pas leur permettre d'être des citoyens parce qu'une fois qu'ils seraient citoyens, ils vont voter pour tel parti ou tel parti. Je pense qu'un droit de l'homme, c'est un droit de l'homme, mais ça ne veut rien dire du tout. Je veux dire que le parti républicain aux États-Unis à l'époque était le parti le plus progressiste. Donc c'est elle qui effectivement luttait pour que les Noirs aient accès à la...
Vous militez pour la dépolitisation du débat,
totalement.
Pour dire c'est un problème de vie quotidienne pour les gens qui ne peuvent pas mener une vie normale.
Et c'est l'essentiel du débat. Il ne faut pas que ça soit instrumentalisé, il ne faudrait pas que ça soit politisé. Il faudrait que ça reste un débat sur un droit de l'homme.
Vous restez avec nous, suite de notre débat sur les personnes sans identité, changer les lois, informer les familles, quelle solution pour éradiquer le fléau de l'apatridie? On en parle, 7 milliards de voisins, on revient juste après le flash dans un tout petit peu plus de 3 minutes, bien sûr sur RFI. Vous restez avec nous les voisins à Abidjan.
7 milliards de voisins, c'est l'émission pour tous, pour les voisines et les voisins.
Les voisins, les voisines, j'ai un numéro de téléphone pour vous.
33 1 84 22 71 71.
Et c'est maintenant, appelez vite. On vous attend.
Bangs, le lauréat du prix Découverte.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins à Abidjan. Vous êtes toujours là les voisins ? L'émission est enregistrée à la Banque africaine de développement en partenariat avec la compétition citoyenne Voix des jeunes, à l'initiative aussi du HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés. Emmanuel Mitt, Mohamed Touré, vous appartenez au HCR. Tilkouete Sansonda, vous avez 37 ans, vous êtes député RDR de Bouna, une circonscription dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Et nous débattons depuis le début de l'émission sur ces enfants sans identité qui conduisent à l'apatridie. On l'a dit, les chiffres sont très difficiles à cerner. Au moins 700 000 personnes concernées en Côte d'Ivoire, mais on dit aussi un enfant sur trois qui naît sans être déclaré à l'état civil, un sur quatre par exemple au Sénégal. En réalité, c'est un problème qui concerne tout le continent et qui est crucial, notamment en Afrique de l'Ouest. Je voudrais qu'on donne la parole à Aslam. Bonjour Aslam.
Bonjour Emmanuel. Bonjour les voisins, bonjour les voisines.
Merci d'être venu. Vous avez 28 ans, vous travaillez... dans le commerce. J'aimerais que vous nous disiez pourquoi vous êtes venu ici.
Voilà, si je suis là, c'est rapidement pour deux raisons. La première raison, c'est que j'ai participé bénévolement à des actions visant à faire sortir des enfants de cette question d'apatridie dans une ville de la Côte d'Ivoire qu'on appelle la Boisso, voilà, avec une fondation. Et la deuxième raison, c'est que j'ai moi-même ma sœur qui est dans ce cas.
Votre petite sœur ?
Ma petite sœur.
Shaïda.
Oui.
Qui a quel âge ?
Qui a 12 ans maintenant.
Ouais, elle est juste à côté de vous.
Elle est juste là.
Shaïda, est-ce que tu veux bien venir juste à côté de ton grand frère ?
Ma petite sœur, elle est née en 2005. Et en 2005, il faudrait que le père et la mère puissent être en position de la pièce.
Donc, votre petite sœur n'a pas été déclarée à la naissance ?
Parce que tout simplement, maman n'avait pas sa pièce. Maman avait sa pièce qui était égarée en ce moment. Et on a fait mains et pieds pour qu'au moins, on nous donne la possibilité de déclarer l'enfant pour que l'enfant ait au moins un extrait. Et après, quand maman aura sa pièce, on viendra pour ajouter. Mais ça n'a pas été accepté. Voilà, ça n'a pas été accepté.
Votre petite sœur, Shaïda, c'est la seule de la famille qui n'a pas été déclarée à la naissance.
C'est la seule. Nous sommes 11. Ouais.
Alors, il faut préciser que vos parents étaient à cheval. Ils sont nigérians d'origine, vos parents, non ?
Oui, nigérians d'origine.
Oui. Mais ayant toujours vécu en Côte d'Ivoire ?
Depuis la naissance.
Ouais. Et alors, vous, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Parce que Shaïda, elle va à l'école, hein, contrairement à la petite nièce de Guy. Elle a été acceptée à l'école, même sans papier d'identité. Mais aujourd'hui, Shaïda, tu es en quelle classe, Shaïda ? Tu peux nous dire ?
CM1.
CM1.
Et l'année prochaine, elle passera en CM2, cette classe-là, où on passe le premier examen en Côte d'Ivoire pour aller en 6e. Et si je suis là, c'est juste parce que nous avons fait mains et pieds. Je comprends l'inquiétude du député. Voilà, je comprends son inquiétude. Mais pour dire que c'est une question qui est réelle. Nous avons fait mains et pieds. Moi-même, je n'étais pas informé. Mais dès lors où j'ai été informé, j'ai fait mains et pieds. Je suis retenu à la mairie avec le carnet de l'enfant.
Le carnet de santé.
Oui, le carnet de santé. Je rappelle que c'est dans la commune d'Abobo. Oui. Je suis retenu avec le carnet de l'enfant à la mairie. On m'a établi une pièce. Et on m'a dit d'aller au palais de la justice et que là, on pourra prendre l'enfant en compte.
Arriver là-bas. Vous essayez d'obtenir un jugement supplétif.
C'est bien celui-là.
Ça. Vous êtes prêt à payer le jugement supplétif ?
Ah oui, oui, je suis prêt.
Aujourd'hui, ce qui est crucial pour vous, c'est que Shaïda, l'année prochaine, elle est en CM2. Si elle n'a toujours pas de papier, si vous ne parvenez pas à faire établir un jugement supplétif en payant des frais de dossier au ministère de la justice, etc., Shaïda ne peut pas passer l'examen d'entrée en 6e.
Jamais.
Là, c'est fini.
Ça, c'est fini pour elle.
Merci beaucoup, Aslam, d'être venu. Merci. Merci aussi à toi, Shaïda. Merci. Je voudrais qu'on passe la parole à Michel. Vous êtes éducateur au foyer Don Bosco, à Kumasi.
C'est exact.
Hein, depuis 17 ans, donc dans le sud d'Abidjan. Et vous vous occupez d'enfants des rues.
Ben, il faut dire que les enfants de la rue sont nombreux. D'abord, oui. Ça c'est un fait, ils sont nombreux à Abidjan. Et aujourd'hui, le phénomène des enfants de la rue a gagné toutes les grandes villes de Côte d'Ivoire. Il faut dire que beaucoup d'enfants de la rue n'ont pas d'essai de naissance. Mais ça, je ne dirais pas que c'est par la faute du gouvernement, ça, c'est pas ce que j'ai dit. En partie, c'est par la faute aussi des parents. Au bout d'un certain temps, nous faisons la recherche de familles qui n'ont pas pu déclarer les enfants à la naissance. Vous voyez un peu ? Donc ça, c'est vraiment un problème de...
Alors, vous vous retrouvez avec des enfants des rues, déjà, vous essayez de les scolariser. Déjà, c'est difficile de sortir de la rue, déjà, à la base. Il faut convaincre les enfants, il faut qu'ils aient envie aussi de reconstruire leur vie. Et en plus, ils n'ont pas de papier d'identité. Qu'est-ce que vous faites ?
Quand ils sont en âge d'être scolarisés, nous négocions avec les directeurs d'école pour qu'ils commencent déjà l'école. Parce qu'il ne faut pas que l'enfant reste au foyer sans pouvoir aller à l'école parce qu'il n'a pas de seuil de naissance.
Et c'est vous qui payez le
jugement
supplétif ?
C'est nous qui payons. Le foyer Don Bosco qui paye parce que les parents n'ont pas souvent de moyens.
Vous vous demandez quoi en fait ?
Ben, nous demandons aux autorités, c'est-à-dire aux porteurs de décision, de faciliter l'acquisition de ces papiers-là aux structures. Parce que nous allons, nous faisons mes épiers, nous sommes matin, midi, soir au palais de justice, quelquefois c'est difficile. Et parce qu'il y a deux types de cas. Il y a le premier cas où les parents n'ont pas déclaré l'enfant à la naissance. Vous voyez, ça c'est le cas le plus difficile. Parce que là, il faut trouver un médecin pour faire un certificat d'âge physiologique et ensuite repartir au palais de justice, au greffe, pour pouvoir établir à l'enfant un jugement supplétif. Le deuxième cas où...
Sur la base quand même d'un minimum de témoignages disant « j'ai bien vu naître cet enfant ».
Encore ça aussi. Là, il faut encore trouver des témoins. Ouais. Si, par exemple, l'enfant vous vient de Zouaouien, je donne un exemple comme ça, il faut pouvoir déplacer les parents de Zouaouien jusqu'à Abidjan et en plus trouver des témoins, ce qui n'est pas facile.
Bon, merci beaucoup, Michel, d'avoir témoigné, parce que le cas des enfants des rues, comme vous le dites, augmente. C'est pas seulement le problème de la Côte d'Ivoire, on a le même problème au Sénégal, en Guinée, etc. Emmanuel Mitte, sur le problème des enfants des rues aujourd'hui, est-ce qu'il y a des pays sur le continent africain qui systématiquement octroient des papiers d'identité à ces enfants qui sont déjà déshérités de tout à la base ?
Oui, c'est vraiment un problème déjà de grande ampleur, puis un problème dramatique. Vous parlez d'enfants des rues qui ont des parents. Alors quand il y a des parents, on sait où ils sont, on peut les contacter pour reconstituer l'identité de l'enfant. Mais il y a aussi beaucoup d'enfants des rues qu'on appelle les enfants trouvés. Ceux-là même ne savent pas qui sont leurs parents, où ils sont nés. Et normalement, en droit international, on devrait présumer que cet enfant-là, il est né dans le pays de parents qui ont la nationalité. Donc, on devrait, en droit international, leur donner une nationalité. Mais qu'est-ce qui se passe en Afrique de l'Ouest ? Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de disposition pour donner une nationalité à ces enfants. Au Sénégal, on ne donne la nationalité qu'aux nouveau-nés trouvés. C'est très limité. C'est entendu entre 0 jour et 30 jours, un nouveau-né. Au Mali, c'est entendu entre 0 et 15 jours. Le Mali aussi ne reconnaît la nationalité qu'aux nouveau-nés trouvés. La plupart des dispositions des pays d'Afrique n'ont aucune disposition pour protéger ces enfants trouvés, quand je dis protéger, pour leur donner une nationalité. Donc ces enfants sont apatrides. S'ils ne sont pas adoptés, ils resteront apatrides. Et ces apatrides, un jour, auront des enfants et ne pourront pas leur donner une nationalité. Donc on perpétue le problème.
Mohamed Touré.
Rajouter à cela, c'est effectivement tout enfant trouvé en Côte d'Ivoire dont la filiation ne peut pas être prouvée. Effectivement, de facto devient un apatride à moins qu'il ne soit adopté dans le futur. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est que la Côte d'Ivoire est un pays carrefour. C'est un pays de migration et de tout le temps, depuis l'ère coloniale jusqu'à aujourd'hui.
Un quart de la population est étrangère.
Totalement. Le quart de la population étrangère, en fait, c'est pas un souci dans le sens où ils ont une nationalité. Ils sont étrangers en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est en cela qu'il est important de préciser que tout apatride n'est pas nécessairement voué à être citoyen ivoirien. C'est-à-dire que il faudrait que le HCR, avec les autorités, bien entendu, nous sommes là pour les aider, de s'assurer qu'on arrive à aller dans les dédales juridiques de l'identité de l'individu pour lui octroyer une nationalité. C'est pas nécessairement... Tout apatride n'a pas vocation à être ivoirien. Oui. Et c'est important parce que c'est une notion qui fait peur aux gens, parce que beaucoup de personnes pensent que l'apatridie en Côte d'Ivoire ne se règle par l'acquisition de la nationalité ivoirienne. Je veux dire que l'acquisition d'une nationalité est suffisante et que l'important pour nous, c'est de s'assurer que l'individu a une nationalité, c'est-à-dire que peut-être qu'il ne le sait pas. Et c'est en allant dans les dédales juridiques de son identité qu'on peut lui octroyer une nationalité d'origine. Ça peut être une nationalité mauritanienne, ça peut être une nationalité française ou autre, mais c'est ça le plus important pour nous.
Til Kouété Sansonda, député dans le nord de la Côte d'Ivoire, vous avez vu arriver, grâce à l'action du HCR et à la volonté politique, des audiences foraines dans votre région. Est-ce que ça a permis, enfin, à plusieurs milliers de personnes de retrouver une identité ?
Oui, absolument. Des milliers de personnes âgées et des milliers d'enfants aussi.
Alors, quand il y a une audience foraine pour la journée, il y a des juges qui arrivent, il y a une administration qui se déplace, ça coûte cher. Le coût a été partagé, si je ne me trompe pas, entre le HCR et le ministère de la Justice.
Oui, là, je dois avouer que...
Et là, pour vous, c'est une bouffée d'oxygène, non ?
Oui, non, beaucoup. Ça nous a beaucoup aidé, il faut le dire, puisque les essais de naissance au niveau de Bouna, département déjà... Pour une période de 3 jours, nous avons pu faire 11 000 extraits de naissance.
Ça, c'était
en
quand
3 jours.
La dernière audience foraine,
c'était en 2013. Ça, c'était en 2013, à notre initiative.
Donc, il y a plus de 3 ans maintenant.
Oui, si, si, ça fait plus de 3 ans.
Vous n'avez pas revu d'audience foraine depuis?
Oui, mais les
audiences. Combien de bébés sont nés sans identité depuis?
Non, mais ça, on doit imaginer qu'il doit en avoir beaucoup. On doit imaginer qu'il doit en avoir beaucoup. Il doit en avoir beaucoup. Mais quand les bébés naissent, il y a des parents qui ont bien cette conscience-là de déclarer les enfants. Ce ne sont pas tous les enfants mais qui ne sont pas déclarés.
Vous n'êtes pas en train de vider un bateau à la petite cuillère qui prend l'eau sur un océan?
Oui, non, ça, il faut reconnaître que la situation est tellement difficile que... Oui. Bon, justement, c'est une situation extrêmement difficile. Mais avec l'appui des autorités un peu partout, je crois qu'on arrive à trouver quelques solutions. Au moment où je suis en train de vous parler... Lorsque j'étais assis là, j'ai reçu un message du préfet de Bouna qui me convie à une réunion le 6 où on aura installé le sous-préfet de Ondefidwo, Yundwo et Bouko. Vous voyez déjà
parce que
c'est une solution.
Vous avez participé à l'émission?
Non, non, je n'ai même pas dit. C'est une coïncidence. C'est une coïncidence. Ça, je vous le dis honnêtement. C'est une coïncidence. Et vous voyez que si les centres d'état civil sont beaucoup plus proches des populations, ça peut aussi faciliter les choses.
Mais il faudrait combien d'audiences foraines chez vous pour venir à bout de l'apatridie ou du risque d'apatridie, c'est-à-dire pour que tout le monde se retrouve avec des papiers d'identité?
Ça, difficile, difficile de le savoir. Difficile de le savoir.
Mais vous-même, en plus, quand il y a un recensement de population, c'est sur la base du recensement de population que vous avez de l'argent de l'État hein, pour faire fonctionner les services de vos circonscriptions.
Mais Emmanuel, soyons convaincus que l'État ne peut pas tout faire.
D'accord.
Ça, l'État ne peut pas tout faire. Non, sans défendre l'État, laissez-moi vous exposer un peu ce que l'État a pu faire.
Vous êtes d'accord que les
oui, je suis d'accord. Moi-même, député de Bouna, comprenez que ma situation est particulièrement difficile de vivre avec des enfants qui n'ont pas de pièce d'identité et qu'on est toujours en train de parler, en train de sensibiliser, mais on n'arrive jamais à éradiquer le problème. Mais quand même, mon niveau aujourd'hui me permet de comprendre qu'il faut absolument créer les conditions pour que mes petits frères, mes petites sœurs, les enfants puissent avoir des pieds d'identité pour aller à l'école. Sinon, ils sont perdus. Ils sont perdus, cette situation ne nous arrange pas.
Sensibilisation dans les familles,
il faut
facilitation pour l'administration.
Oui, mais la facilitation du côté de l'administration, laissez-moi vous dire déjà que l'extrait de naissance, la déclaration est gratuite en Côte d'Ivoire. La déclaration est gratuite, c'est le droit de timbre seulement qui ne coûte que 500 francs qu'il faut payer. Il faut beaucoup plus de sensibilisation. Il faut beaucoup plus de sensibilisation. Peut-être qu'on va accuser les responsables locaux, les députés, de ne pas pouvoir faire suffisamment de sensibilisation, mais c'est beaucoup plus facile aussi.
Mohamed Touré du HCR.
Lorsque tout à l'heure nous avons eu les jeunes qui sont intervenus, je pense qu'il y a des solutions innovantes qui ont été proposées. Je pense que notamment l'équipe du Sénégal ou celle de Guinée, je ne me rappelle plus, qui avait proposé effectivement que l'enregistrement de naissance puisse se faire de manière beaucoup plus innovante, parce que tout simplement nous restons dans des carcans qui sont assez rigides, et une fois que le délai de 3 mois est passé, il va sans dire que c'est beaucoup plus compliqué. Et nous passons de 500 francs à près de 12 000 francs, voire beaucoup plus. Donc il est évident que quelqu'un qui a des revenus assez limités pense qu'enregistrer un enfant à travers le jugement subjectif n'est pas sa priorité. Je pense qu'il est évident qu'aujourd'hui, notamment...
Pas la priorité, d'autant plus que les familles ne voient pas ce qu'elles ont à gagner dans l'immédiat.
Totalement.
Je veux dire, on investit dans un téléphone portable, on voit tout de suite ce que ça va vous rapporter.
Absolument, absolument.
Investir dans un jugement supplétif, dans l'immédiat, ça rapporte quoi à une famille?
D'autant plus que si cette famille est une famille agriculteur qui vit de plantations dans des cacao, qui est ouvrier agricole dans des plantations de cacao, les enfants souvent ont vocation à aller seulement dans ces activités-là. Donc, je l'acte de naissance, l'extrait de naissance et toutes les conséquences ne sont pas nécessairement perçues par les familles. Donc il est évident que la sensibilisation est quelque chose sur lequel nous devons nous atteler, mais je pense qu'il faut quand même lieu de rappeler ici qu'il y a une volonté politique véritable de vouloir davantage renforcer cela, améliorer l'enregistrement des naissances. Et nous ne sommes pas seuls. Le HR le fait, mais on le fait avec beaucoup de partenaires, notamment le partenaire du système des Nations Unies.
Et beaucoup de polémiques politiques aussi, parce qu'on vous accuse, vous, le HCR, de vouloir brader la nationalité ivoirienne, notamment, parfois.
Bien sûr, je pense que c'est
une question d'assouplir la loi.
Absolument. Je veux dire, ça a été perçu lorsque cette loi, une loi qui a été mise en place en 2014, qui s'appelait la loi pour la question de la nationalité par déclaration, qui touchait un ensemble de populations, en fait, qui sont des descendants de migrants historiques. Donc, on estime à près de 700 000 personnes qui sont en gros reparties en deux groupes. Le premier groupe, c'est les enfants abandonnés. Je pense qu'Emmanuel en a fait allusion tout à l'heure. Donc, tout enfant abandonné en Côte d'Ivoire
qui ne peut pas prouver sa filiation parce qu'il c'est un bébé qu'on trouve dans la rue, se retrouve dans une situation d'apatrie. Et ses enfants, les enfants de ses enfants. Donc, nous sommes pratiquement à trois générations d'enfants. Parce que cette loi date de 1972. Et donc, depuis 1972, je pense que beaucoup d'enfants sont nés et nés de parents qui sont déjà apatrides. Donc, je pense que c'est assez un phénomène assez important. L'autre phénomène, c'est tous ces migrants historiques. Alors qu'il est lié de signaler, Emmanuel, si vous me permettez, c'est qu'il y a une succession de lois. Je veux dire qu'on est passé d'un pays colonisé à un pays indépendant. Donc, après cela, je veux dire qu'un ensemble de lois qui viennent régir la nationalité se sont succédés en Côte d'Ivoire. Jusqu'à un moment, je veux dire que ces lois ont été énormément politisées. Mais il va sans dire qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation que le meilleur moyen de pouvoir mettre fin à l'apatridie, c'est certainement d'octroyer la nationalité aux personnes qui sont une nationalité. Je ne dis pas nécessairement la nationalité ivoirienne, mais il va sans dire que c'est un sujet qui est politisé, qui est instrumentalisé, parce que pour les uns et les autres, c'est une façon de naturaliser des personnes.
Vous voulez dire qu'il faudrait revenir à un système de droit du sol, hein?
Ben, je pense que c'est des choix politiques qu'un État fait. Je pense que c'est certainement une solution que beaucoup de pays ont adoptée et qui certainement met fin à beaucoup de situations d'apatridie.
Nous n'avons pas encore donné la parole à Djenabou Ba. Bonjour Djenabou.
Bonjour Emmanuel.
Alors vous faites partie justement des finalistes de la compétition All-Star de Voix des Jeunes et vous vous êtes affronté sur le sujet de l'apatridie, des enfants sans identité. Mohamed Touré le disait, hein, les différentes équipes, Sénégal, Guinée, vous c'est l'équipe de la Guinée, l'équipe de la Côte d'Ivoire, vous avez proposé différentes solutions. On ne va peut-être pas déflorer les solutions parce que l'émission a été filmée, elle va passer sur les chaînes de télévision, on en aura le résultat de la compétition aussi, mais je voudrais que vous nous disiez, vous, en tant qu'étudiante, bon, vous êtes étudiante en Guinée forestière, vous venez d'une famille d'agriculteurs, vous avez grandi dans le foot à Djalon, vous avez été déclarée à la naissance, vous avez eu cette chance-là, c'est pour ça qu'aujourd'hui vous êtes étudiante, c'est pour ça qu'ici, aujourd'hui, vous êtes à Abidjan,
hein. Ouais,
c'est parce que vous avez un passeport aussi. Comment vous avez découvert le sujet et de tout ce qu'on vient de raconter, qu'est-ce qui vous semble le plus crucial pour vous en tant que jeune étudiante, Djenabou?
Bien, merci. C'est bien vrai, je suis étudiante. Mais si vous voyez que ce sujet prend autant d'ampleur aujourd'hui, c'est parce qu'il est méconnu. Je suis étudiante, j'ai fini dans sous peu. Mais imaginez-vous, moi-même, je ne savais pas que l'apatridie existe. Et si toi qui as fait plus de 10 ans d'études, tu ne sais pas que l'apatridie existe, est-ce que c'est un agriculteur qui peut le savoir? Impossible quand même. Si vous voyez que ce problème est aussi crucial aujourd'hui, c'est parce que les jeunes ne sont pas impliqués. Moi, je pense que la jeunesse joue un rôle fondamental dans cette lutte. C'est un combat de tous. Bien, l'État est au courant aujourd'hui, l'apatridie existe, c'est bien vrai. Mais qu'en est-il des jeunes? Je pense que, par exemple, cette émission-là, nous qui sommes là, nous ne venons pas d'un même pays. Chacun est ambassadeur. Nous qui sommes là, nous sommes conscientisés, nous prenons conscience que oui, l'apatridie est un combat de tous. Quand moi je rentre, toi tu rentres, lui il rentre dans sa famille, il informe ses parents, ses voisins. Je pense que ça c'est déjà un grand pas pour cette lutte. Parce que quand je m'imagine, tu tombes malade, tu vas à l'hôpital, on ne peut pas prendre soin de toi. Tu n'as pas droit à l'éducation. Mais tu n'existes pas.
Et quand vous allez revenir au village, là, dans le foot à Djalon,
oui.
Je sais que vous revenez une fois par an. Qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez raconter de ce que vous avez vécu ici, à Abidjan, avec la Voix des Jeunes?
Dans mon village, je pense que c'est l'endroit idéal où je pourrais passer ce message. Ouais. Parce que là-bas, c'est quelque chose qui n'est pas considéré. Chacun se préoccupe comment manger, comment au moins s'occuper de son champ. Quand tu te lèves le matin, la première chose qui te vient en tête, c'est est-ce qu'au moins aujourd'hui je pourrais avoir une grande partie qui est labourée? Est-ce que les graines vont suffire? Problème de documentation, ça ne compte pas. Mais quand je rentre, vous imaginez par exemple, je me rappelle encore d'une voisine qui me disait, il n'y a même pas longtemps, hein, qui me disait que bon, elle a deux enfants qui n'ont pas d'extrait de naissance. Parce que tout simplement, à un moment donné, sa case avait pris feu et que elle, tout ce qu'elle avait était dedans. Et mais j'ai banalisé le sujet parce que moi-même, je ne savais pas, je n'avais pas de conseil pour elle. Donc quand je rentre, je prendrai le soin d'informer tout un chacun, de passer même par l'impossible pour déclarer son enfant. Parce que si tu es né, tu n'es pas déclaré, dis-toi que tu n'existes pas. Tu viens sans laisser de traces.
Emmanuel Mitte, Emmanuel Mitte du HCR, depuis le début, vous dites beaucoup au HCR, il faut faire évoluer les lois, bien sûr, il faut les assouplir, il faut rendre l'administration plus efficace, il faut payer des audiences foraines avec l'aide de la communauté internationale, il faut conscientiser, il faut sensibiliser les familles. Mais quand même, on se dit, moi j'ai vu là, à l'occasion de l'engagement de ces jeunes, le site Le Monde Afrique, hein, je vous le signale, publie une enquête sur une expérience qui est très intéressante au Burkina Faso, où l'enregistrement des naissances pourrait se faire par SMS, c'est-à-dire au moyen d'un code barre avec la matrone. Comment se fait-il, Emmanuel Mitte, qu'aujourd'hui, sur un continent comme l'Afrique, où on peut payer ses factures d'électricité via du mobile banking, on peut même recevoir son salaire de fonctionnaire par SMS, comment se fait-il que l'enregistrement des naissances soit encore aussi compliqué, finalement ?
Je n'ai pas une réponse à votre question, Emmanuel. C'est vrai qu'il faudrait que les États mettent en œuvre un système d'enregistrement des naissances qui fonctionne à travers des pratiques innovantes et accessibles. Il faudrait prendre en considération aussi l'aspect sociologique des populations, celles qui vivent très loin de l'administration, les populations nomades. Une réflexion doit être faite. C'est vrai que les audiences foraines, ce n'est pas la solution. C'est juste un médicament, on va dire, pour soulager. Mais il y a toutes ces générations qui sont en train de naître, il faut que le mécanisme fonctionne. Alors, je pense que ce que souhaitait dire le député tout à l'heure, c'est que, ça coûte très cher aussi de mettre en place des mécanismes administratifs qui fonctionnent bien, comme ils peuvent fonctionner dans certains pays à l'ouest ou au nord. Et je pense qu'il y a des solutions innovantes qui peuvent être mises en œuvre. Tout le monde aujourd'hui a des téléphones, je pense.
On devrait être plus innovant, en fait.
On doit être plus innovant.
Oui. Emmanuel Mitte et Mohamed Touré, on arrive au terme de cette émission. Vous avez lancé un défi, permettre à tous d'avoir des documents d'identité d'ici 2024. On est en 2017. Il reste 7 ans. Est-ce que ce n'est pas complètement illusoire ?
Dans 7 ans, refaites une émission à 7 milliards de voisins, on en parlera, mais j'espère que ce n'est pas...
On viendra à mi-parcours, hein, je vous rassure.
En réalité, je dis que la patrie a toujours été le parent pauvre des interventions du HCR par rapport à des situations de droits de l'homme. On s'est énormément occupé des réfugiés, on s'est énormément occupé des personnes déplacées internes, et on s'est rendu compte que le nombre de ces personnes, les apatrides, était en train de croître, pour atteindre le chiffre record de 10 millions. Donc 10 millions de personnes qui sont sur cette terre, comme vous et moi, mais qui n'ont aucune identité juridique, on s'est dit qu'il faudrait prendre la question très au sérieux et puis se battre pour voir comment on peut l'éradiquer. Ce n'est pas qu'un slogan, je pense que toutes les mesures sont mises en place pour s'assurer que dans 10 ans, la patrie va disparaître. Et l'Afrique de l'Ouest, Emmanuel, est quand même en avance par rapport à ça. Je veux dire que c'est l'une des rares entités sous-régionales qui a mis en place une déclaration, qui a mis en place des documents qui sont des documents rigides qui permettent à tout cet ensemble de se battre contre la patrie et l'éradiquer dans les 10 ans.
Et le sujet est très nouveau. C'est seulement depuis quelques années, depuis quoi, 4 ans que le HCR communique, se préoccupe du sujet. Donc nous-mêmes, les médias, on ne connaissait pas grand-chose au sujet il n'y a encore pas si longtemps que ça. Donc il n'y a pas que chez toi, Djenabou, on n'est pas sensibilisé au sujet finalement. Justement, monsieur le député Da, est-ce qu'aujourd'hui, dans votre pays, mais bien sûr, la situation est la même ailleurs, mais est-ce qu'on peut trouver des informations, des conseils pour savoir quoi faire ? Parce qu'on le voit bien, c'est quand même très compliqué.
Ce qu'il y a lieu de faire, moi je pense en toute objectivité qu'il faut nous-mêmes nous accuser d'abord. En vous posant à cette question, est-ce qu'il y a un parent aujourd'hui qui met un enfant au monde mais qui ne sait pas qu'il faut déclarer l'enfant à l'état civil?
De vous à moi,
s'il y a des parents majeurs qui ont mis des enfants au monde mais qui ne savent pas qu'ils ne peuvent pas, ils ne savent pas qu'il faut déclarer l'enfant à l'état civil, il faut bien désespérer pour notre société. Non, il faut désespérer. Je ne sais pas comment on peut mettre un enfant au monde et ne pas avoir la conscience qu'il faut le déclarer. Justement, ce genre de comportement, vous condamnez les enfants. Vous condamnez les enfants avant de faire un enfant. Vous êtes responsable. Vous savez quel est le devenir de votre enfant. Vous devez prendre les dispositions pour que l'enfant soit grand. Si vous mettez un enfant au monde et que vous n'êtes pas capable d'assumer le moindre acte, mais c'est totalement décevant.
Les élections législatives sont passées. On va faire redescendre la pression. En tout cas, on le voit bien, le sujet est un sujet qui est difficile, hein, sur notamment la méconnaissance des familles, la sensibilisation sur toutes les actions à entreprendre. On voit bien que ça touche à la vie quotidienne. Il nous reste quelques secondes avant la fin de l'émission. Jenna Bouba, vous n'êtes pas ivoirienne, vous êtes une étudiante guinéenne. Je vous laisse le mot de la fin.
Je suis guinéenne, mais je dirais que je ne suis pas totalement d'accord avec l'idée du député. Parce que peut-être, s'il vous plaît. Merci. Parce que peut-être, les parents savent qu'il faut déclarer un enfant. Mais est-ce qu'ils savent quelle est l'importance de déclarer son enfant? Non. Voilà, peut-être ils le savent, mais ils ne connaissent pas quelle est l'importance. Ou bien, s'ils ne déclarent pas leur enfant, quelles sont les conséquences? Ils ne savent pas. Et dans ce cas, je ne suis pas prête pour l'abandon. Non, il dit que c'est pitoyable. Non, je ne suis pas d'accord. J'ai entièrement confiance en cette jeunesse-là que je vois devant moi. Je sais que nous sommes engagés à lutter contre la patrie.
Merci beaucoup. Merci Jenna Bouba, étudiante guinéenne. Merci à vous tous. La compétition All-Star Voix des Jeunes sur la patrie sera diffusée prochainement sur les chaînes de télévision en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Il y aura aussi bien sûr la grande finale régionale. Vous aurez tous les renseignements sur la page Facebook de notre page, chez 7 milliards de voisins, mais aussi sur la page Facebook Social Change Factory et puis aussi tout simplement Voix des Jeunes. Rendez-vous aussi sur le site du Monde Afrique qui est partenaire de notre émission et qui suit aussi depuis plusieurs jours toute l'initiative de Voix des Jeunes en Côte d'Ivoire. Merci à vous tous, merci à toute l'équipe, Camille Nérand, Cécile Lavolo, Benjamin Sarallier. Demain, retour à Paris. On vous attend tout aussi nombreux et aussi chaleureux. Merci à vous tous, Abidjan.
L'Africa Finance and Investment Forum 2020.